Radio Mieux-Être vous présente l'émission Les électrons libres avec le docteur Luc Baudin.
Bonjour et bienvenue dans notre émission Électrons libres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est très mal connue et pourtant nous le voyons tous les jours, c'est la force de notre pensée sur le corps. Voilà, donc c'est un vaste sujet et on a très tendance à l'oublier, à le dénigrer, alors que c'est quelque chose d'essentiel. Et pour bien vous faire comprendre ça, je vais vous donner plusieurs explications et vous allez voir comment votre esprit est quelque chose de merveilleux. Parce que, rappelez-vous, notre corps est auto-guérisseur, ok, mais aussi notre esprit intervient beaucoup, c'est-à-dire c'est que le corps influence le cerveau. C'est évident que quand on est dans la douleur, quand on est dans la souffrance, notre esprit va être modifié par cet état de souffrance. Mais inversement, si on a des pensées qui sont positives, eh bien d'un seul coup, ça va influencer positivement la personne. Et donc là, vous savez, le jour où vous n'êtes pas en forme, si un jour vous vous réveillez, vous n'êtes pas en forme, vous êtes triste, vous n'êtes pas en forme, ça ne va pas bien, eh bien simplement, ce que je vous conseille, c'est qu'à ce moment-là, vous vous redressez. Vous redressez les épaules, vous redressez la tête et vous commencez à faire un grand sourire. Et vous verrez simplement qu'en faisant cette attitude-là, eh bien votre pensée va commencer à changer et va devenir plus joyeuse. Et donc inversement, vous savez que quand on est triste, quand on a des soucis, etc., bah ça influence aussi notre corps et notre santé. Et donc là, c'est pour vous montrer que les deux marchent ensemble. D'un seul coup, notre corps agit sur notre esprit, mais notre esprit agit aussi beaucoup sur le corps. Et je vais vous faire voir comment notre corps peut agir et notre pensée peut agir sur le corps. Excusez-moi. Et donc la première chose, c'est que pour bien le faire voir, c'est notre effet placebo. L'effet placebo dont on parle souvent, mais l'effet placebo, tenez-vous bien, l'effet placebo est responsable à lui seul de 35% des guérisons et des améliorations obtenues par un traitement. Tous les traitements bénéficient de l'effet placebo. Donc tous les traitements bénéficient de l'effet placebo, 35% c'est quelque chose d'énorme, énorme. Et donc il faut, le placebo, qu'est-ce que c'est? Le placebo, c'est en fait que la personne va croire foncièrement à l'efficacité et à l'utilité de son traitement. Donc comme elle croit positivement à son traitement, eh bien à ce moment-là, cet effet positif va induire un effet positif sur son traitement, va renforcer l'effet de son traitement et va faire que son traitement va à ce moment-là être 33%, 35% plus efficace. C'est énorme, et vous savez, au début, quand j'ai commencé à exercer la médecine, les visiteurs médicaux nous montraient toujours l'effet de leurs médicaments contre placebo. Donc on voyait l'effet du médicament, par exemple on obtenait avec tel médicament 50% d'amélioration ou de guérison avec le médicament, et puis obligatoirement tous les remèdes étaient étudiés contre placebo. Donc d'un seul coup vous regardiez sur la colonne d'à côté et vous aperceviez que le placebo, lui, il avait 35% d'amélioration ou de guérison. Donc voilà, je leur disais, donc alors 50% d'amélioration et de guérison avec le médicament, 30%, 35% avec le placebo, ça veut dire que pour avoir 15% de plus, il faut que j'avale le médicament avec tous les effets secondaires du médicament. Alors là, il y avait toujours les grandes discussions, mais non, docteur Baudin, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si, c'est comme ça que ça se passe, je suis désolé, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y avait même une fois, j'avais souri parce que j'avais lu dans mon livre médical, dans les journaux médicaux qu'on reçoit en France, les psychiatres qui disaient « Comment pourrait-on supprimer l'effet placebo des médicaments ?» Je veux dire, il ne faut pas supprimer l'effet placebo, parce que si on enlève l'effet placebo, il ne va pas nous rester grand-chose, mais c'est surtout qu'il faut non seulement le laisser, mais encore il faut absolument le séduire pour le renforcer. Et plus on va le renforcer, plus il va grossir. Et là, il y avait je me rappelle d'une étude qui était extraordinaire, qui avait été faite sur un phlébotonique, c'est-à-dire sur un produit qu'on utilise pour les circulations veineuses. Cette étude était une étude objective, c'est-à-dire on avait mesuré le périmètre des cuisses, le périmètre des mollets et le périmètre des chevilles des personnes qui étaient rentrées dans cette étude. Donc c'était des personnes qui avaient des problèmes d'œdème à cause d'insuffisance circulatoire veineuse. On leur donnait un phlébotonique et on leur donnait un placebo. Donc il y avait deux groupes, un avec phlébotonique et l'autre avec un remède qui était du placebo, c'est-à-dire de la poudre de perlimpinpin. Et donc ce que j'ai été surpris, c'était de voir les résultats du groupe placebo. Eh bien, tenez-vous bien, dans le groupe placebo, il y a eu 65% d'amélioration ou de disparition de l'œdème avec le médicament placebo. J'ai bien dit avec le médicament placebo. Avec le médicament phlébotonique, il y avait 80%. Mais j'ai trouvé ce résultat, 65%, un résultat extraordinaire quand même avec le simple effet placebo. Sauf d'autant plus que c'était un résultat objectif, en ce sens qu'on avait mesuré le périmètre des cuisses, des mollets et des chevilles. C'est pas pareil que si on avait demandé, tiens, est-ce que vous sentez plus ou moins les jambes lourdes ? C'est des résultats subjectifs. Là, jusqu'à 65% d'amélioration, rien qu'avec l'effet placebo. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut vraiment favoriser, et c'est dans tous les traitements, il va falloir vraiment le développer en insistant sur l'effet bénéfique des médicaments. Par contre, c'est vrai qu'on a aussi de temps en temps des effets nocebo. Placebo, c'est plaire, donc c'est quelque chose qui va être positif. Il y a aussi de temps en temps des effets nocebo dans les médicaments. C'est aussi que de temps en temps, en donnant un placebo, un médicament en poudre perlimpinpin, eh bien on peut avoir des effets négatifs déclenchés par la personne, parce que la personne ne croit pas ou croit que le médicament va lui être mauvais pour la santé. Et c'est pour ça que je disais souvent, personne qui allait faire des chimiothérapies, par exemple, je leur disais, ok, ils me disaient, c'est un poison, c'est de la cochonnerie, etc. Je leur dis, ok, ça c'est vrai, c'est un poison, mais seulement, n'allez pas là-bas, n'allez pas faire de la chimio pour ça. Soit vous la faites, soit vous la faites pas. Mais si vous la faites en vous disant que c'est un médicament qui va être bon pour vous, qui va vous aider à guérir, qui va vous aider à soigner ce cancer. Parce que si vous y allez en considérant que c'est nocif pour vous, eh bien vous allez vous retrouver avec tous les effets négatifs du médicament, et c'est inutile. Et donc là, je les poussais un petit peu dans leur retranchement en leur disant « Ok, vous le faites ou vous le faites pas ?» Moi, je les conseillais vivement, bien sûr, de le faire, parce que je trouvais que c'était très important. Mais je les mettais un petit peu dans ce dilemme, parce que je savais très bien qu'ils allaient le faire, qu'ils allaient suivre le traitement. Mais seulement, si on les met devant leur choix, d'un seul coup, ils se disent « Ah oui, mais si je le fais pas, qu'est-ce que je vais avoir ?» Donc d'un seul coup, ils se disent, ils voient l'importance de faire cette chimio. Et donc là, d'un seul coup, ils prennent la chimio comme un allié et non pas comme une ennemie qui vient les polluer. Il y avait même une étude, mais je suis toujours un petit peu gêné pour raconter celle-là, parce que j'aime bien vérifier mes sources. Mais je l'avais lu dans un journal. Il y avait un médecin qui donnait un remède à un patient en disant, voilà, vous avez une douleur de genou, vous avez un problème de genou, ou de, je ne sais pas quoi, mais enfin, peu importe, prenant une douleur de genou, vous avez un problème de genou, et bien là, je vous donne un médicament, mais c'est un placebo. C'est-à-dire, il n'y a rien dedans. Hein, c'est un placebo, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais je vous donne le placebo, parce que je pense que ça peut bien vous faire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et bien les patients, il y a beaucoup de patients qui ont dit « Ok, je prends ». Donc ils ont pris le placebo. Ils ont pris le médicament, comme ils prenaient ça pour n'importe quel médicament, en sachant que c'était un placebo. Eh bien, d'après le dire de cet article, eh bien ils ont obtenu des résultats positifs beaucoup plus importants que s'ils n'avaient rien pris. Voilà. Donc c'est intéressant parce que l'effet placebo, on sait que l'effet placebo, le médicament placebo sera encore d'autant plus efficace qu'il est cher. Parce que, bah, évidemment, dans l'esprit commun, dans l'esprit de tout le monde, c'est quand un médicament est cher, ça veut dire que c'est un médicament qui est puissant. Et donc, s'il est puissant, ça veut dire qu'il va être efficace et donc il va avoir meilleure efficacité. Donc, vous voyez, c'est que l'effet placebo, vraiment, c'est l'effet de l'esprit sur le corps. Le médicament ne fait rien. C'est vraiment l'esprit de la personne qui va agir via le médicament qui est le support, mais va agir sur le corps. Et c'est l'effet, ça. Un autre exemple, c'est la sophrologie. C'est un peu, je présente ça un petit peu comme l'hypnose. Je sais que les sophrologues ou les hypnothérapeutes n'aiment pas que je fasse un amalgame, mais bon, c'est un peu quand même du même principe. C'est que on va mettre les personnes en état modifié de conscience. En état modifié de conscience, surtout en sophrologie, moi je l'ai pratiqué pendant 20 ans. On met la personne en état modifié de conscience, c'est-à-dire c'est qu'on les met un petit peu dans un état qui est entre la veille et le sommeil. Et dans cet état-là, on est en train de chanter le conscient et on va directement discuter avec l'inconscient de la personne et on va passer des messages. Et donc avec ces messages, on va pouvoir obtenir des actions. Et là, vous pouvez obtenir des réactions, mais qui sont extraordinaires. Moi, en sophrologie, moi, je travaillais souvent avec le professeur qui m'avait appris la sophrologie. On allait travailler dans une clinique à Paris où les gens se faisaient opérer du nez, chirurgie esthétique, etc. Eh bien, on allait dans les salles d'intervention et grâce à la sophrologie, ça permettait de diminuer la douleur et donc diminuer les anesthésions. Et l'autre chose qu'on faisait également, c'est que ça permettait de diminuer les saignements au cours de l'intervention chirurgicale. Donc on obtenait ces résultats-là immédiatement. Et donc, je me rappelle même d'une fois, on avait induit la personne et on lui avait dit « vous ne saignerez pas pendant toute l'intervention », ce qui s'est passé. Et juste après l'intervention chirurgicale, on a été rappelé en urgence au bloc parce que la personne s'était remise à saigner après l'intervention parce qu'on avait omis de dire « vous ne saignerez pas pendant et après l'intervention ». Parce que là aussi, la sophrologie, les messages qu'on passe doivent être très complets, très, très intéressants. Et là, on avait au sein du groupe ou dans l'école où je travaillais, on faisait des expériences. Par exemple, on faisait remonter des personnes à l'âge de leur premier pas. À l'âge de leur premier pas, c'est-à-dire, je me rappelle d'un homme qui avait une soixantaine d'années, il se rappelait de l'âge des premiers pas, je vous rappelle que c'est à l'âge de 1 an, et donc lui était capable de se rappeler ce qu'il avait mangé à son petit déjeuner, comment il était habillé, ce qu'il avait fait dans sa journée. Donc il avait tous ces mémoires précis qui étaient restées dans sa mémoire. Et donc tous ces souvenirs étaient là. Et donc on en a plus conscience. On les a oubliés, on les a placés dans notre inconscient depuis belle lurette. Mais simplement, en état sophronique, on est capable de les faire ressortir. L'hypnose, vous savez, on a beaucoup d'hypnose au spectacle. Et l'hypnose au spectacle, eh bien, c'est un petit peu comme on voit très, très souvent une personne âgée qu'on va mettre la tête sur un fauteuil et les pieds sur l'autre fauteuil à l'horizontale, on lui met 3 parpaings sur le ventre, elle est capable de tenir dans cette position-là, alors que normalement, elle est perclue de douleur et du rhumatisme. Et là, tout ça sont des possibilités. Et qu'est-ce que ça fait? D'où est-ce que ça vient, ça? Le sophrologue ou l'hypnotiseur ne fait rien, il ne fait que passer le message. Qu'est-ce qui fait cette action sur le saignement, sur la douleur, sur la mémoire, sur le corps? Eh bien, c'est l'esprit de la personne. L'esprit de la personne, comme on va passer l'information directement à son inconscient, l'inconscient prend l'information et va le passer au niveau du corps. Donc c'est là encore l'esprit de la personne qui va agir sur son corps et qui fait toutes ces choses extraordinaires. Mais il faut bien comprendre, c'est que si on est capable de le faire en état sophronique ou en état d'hypnose, ça veut dire qu'on devrait aussi être capable de le faire à l'état conscient. Mais à l'état conscient, on a toutes nos pensées négatives qui sont là et qui nous bloquent. Par exemple, je pourrais arrêter le saignement. Oui, mais j'y crois pas. C'est pas possible. Je peux pas arrêter le saignement. Il faut vraiment prendre des médicaments pour ça, etc. Ou faut faire des compressions. Donc on y croit sans y croire. Et comme on n'y croit pas, évidemment, là ça ne marche pas. Tandis qu'on est en état sophronique, et bien évidemment, on chante ce conscient, on chante ce mental. Et lui, il n'a pas de doute, il fait. Donc, mais ça, cette pensée, et vous imaginez. Imaginez que toute cette pensée, toute cette puissance de la pensée qui est là et qui ne demande qu'à se mettre en place sous simplement le fait qu'il suffit, comme pour le placebo, d'y croire. Inversement, eh bien, il y a le stress. Le stress, on sait très bien que c'est une pensée négative qu'on a vis-à-vis de soi-même et qui va lui faire des trous dans l'estomac, elle va faire des colites, des inflammations des intestins, elle va favoriser les allergies, aggraver les asthmes. Donc tout ça, on le sait pertinemment. Donc c'est là encore une pensée négative qu'on va avoir sur nous-mêmes et qui va induire des symptômes qui vont être négatifs. Et là, il y a M. Kwe, qui est remarquable aussi, M. Kwe, qui a été adulé aux États-Unis et complètement moqué et montré du doigt en France. Et Dieu sait qu'il a raison, ce M. Kwe. Il est toujours en train de dire « Ok, ben ma situation s'améliore de tout point de vue, de jour en jour. Ma situation s'améliore. De tout point de vue, tous les jours, ça va aller mieux. » Et là, c'est super important de voir toujours cette pensée positive par rapport à soi. Parce que si vous n'avez pas une pensée positive pour vous, qui est-ce qui va l'avoir? Et là, cette pensée, vous pouvez la construire tous les jours en vous disant « Ok, il y a peut-être des choses qui sont à revoir dans ma vie, mais ça va s'améliorer, ça va aller de mieux en mieux, et ça va aller, tout ça, ça va aller s'améliorer. Et moi, et ma santé, toute ma situation professionnelle, à tout point de vue, vous pouvez faire ça. » Et si vous voulez ajouter une note supplémentaire à cette pensée positive, vous y ajoutez la visualisation. La visualisation, c'est que quand vous voulez quelque chose, voyez-vous avec. Vous imaginez, tiens, vous voulez une nouvelle voiture. Ou alors vous avez qu'à, bien sûr, vous dire, ok, je vais l'avoir. Mais seulement si vous vous visualisez avec. Si vous visualisez, vous imaginez que vous êtes dans le volant de votre voiture, que vous sentez le volant dans vos mains. Quelque part, vous sentez les pédales sous vos pieds, vous sentez le changement de vitesse dans vos mains. Et bien, d'un seul coup, vous êtes dans cette voiture. Et là, vous êtes en train de d'appeler les choses. Si vous voulez sortir d'une maladie, ne vous voyez pas en train de sortir de la maladie. Voyez-vous tout simplement à l'état de bonne santé. Et là, vous vous visualisez en train de courir dans l'herbe, à respirer la vie à plein poumon, etc. Et ces techniques de visualisation sont très, très importantes, des visualisations positives. C'est Carl Simonton qui avait beaucoup travaillé dessus aux États-Unis, en particulier dans le cancer et tout comme dans le sida. Moi, je sais que ces visualisations, j'avais beaucoup de personnes que je suivais qui avaient des cancers et puis qui me disent « Oui, moi, je fais de la visualisation sur mes cellules cancéreuses. » Je dis « C'est bien, qu'est-ce que vous faites ?» Ben, c'est pas compliqué. Je vois mes cellules cancéreuses et puis je vois qu'elles sont attaquées par mes globules blancs, mes lymphocytes, etc. et qu'elles sont détruites par les lymphocytes. Et donc, je visualise ça tous les jours. Je dis « Waouh !» Wow, dites donc, oui, c'est bien. Hein. Enfin, c'est un sacré champ de bataille, votre corps. Hein. Vous le vivez bien, hein, parce que c'est quand même c'est la guerre chez vous. Alors, j'aurais dit, écoutez, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un changement de point de vue, complètement, un changement de paradigme. Parce que, vous savez, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand le cancer disparaît » et qui explique que, dans certaines conditions, eh bien, on s'est aperçu que les cellules cancéreuses pouvaient redevenir normales. Alors, moi, ce que j'aurais dit, ok. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez visualiser que les cellules cancéreuses qui sont dans votre corps vont commencer à redevenir normales un petit peu. Vous allez leur visualiser que c'est un peu comme des enfants prodigues. Vous leur dites, ok, bah, si vous avez déraillé, si vous êtes devenu cancéreuse, c'est que vous aviez certainement des bonnes raisons pour devenir cancéreuse. Eh bien là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que je vous demande de revenir dans le giron du corps et revenir dans le giron de la bonne santé. Et pour cela, ce que vous allez faire, c'est que vous allez leur envoyer plein d'amour, plein d'attention, parce que là, cet amour, cette attention, va faire que d'un seul coup, ces cellules vont pouvoir revenir à l'état normal. Alors moi, je ne peux pas vous dire que cette technique de visualisation positive a donné plus de résultats que la précédente. Je n'ai pas eu l'occasion de suivre mes patients assez longtemps pour avoir la confirmation de cela. Par contre, ce que je peux vous dire, et ça je l'affirme, c'est que la vie de ces personnes était transformée par cette visualisation. Parce que d'un seul coup, évidemment, ce n'était plus un cancer qui était à l'extérieur d'eux et qui était rentré en eux et qui était en train de les détruire et qu'il fallait envoyer l'armée pour les éliminer. Là, c'était plutôt, ils visualisaient ça comme des cellules de leur corps qui s'étaient transformées pour des raisons sans doute légitimes, mais que justement qu'elles demandaient avec plein d'amour à les faire revenir dans le giron familial, c'est-à-dire dans le giron de la famille, dans le giron du corps. Et bien là, d'un seul coup, c'était des choses qui étaient très très positive et qu'elles le vivaient très très bien. Leur corps n'était plus un champ de guerre, mais c'est un champ d'amour. Et d'ailleurs, pour revenir toujours dans cet esprit de la puissance de la pensée sur le corps, eh bien, il y a une étude qui a été faite que je trouve très belle. C'est « Le bonheur est contagieux ». Alors, je dis toujours, faites attention à bien attraper cette maladie-là, surtout parce que ça vaut vraiment le coup. Eh bien, cette étude, ce titre qui peut paraître un petit peu humoristique, est pourtant tout à fait juste. C'est une étude qui a été faite pendant 10 ans sur plusieurs milliers de personnes. Je crois qu'il y a eu 4000 personnes qui ont été intéressées par cette étude. Eh bien, ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand une personne était heureuse, eh bien, bien sûr, ça se transmettait à sa famille, à ses amis, à ses proches, à son conjoint, à sa conjointe, à ses enfants. Donc tout ça, on le savait déjà, je dirais, quelque part, il n'y avait pas besoin de faire une étude pour ça. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que son bonheur était contagieux, était transmissible aux amis, mais aussi aux amis des amis et aux amis des amis des amis. Donc à 3 générations d'amis, ça veut dire que la 3e génération ne savait pas forcément, ne savait même pas au courant de qui était heureux et d'où ça venait. Donc, là, ce bonheur, on s'est aperçu également que ce bonheur était contagieux, mais était aussi contagieux à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc c'est pour ça que si vous avez une personne qui est heureuse, qui a le bonheur, qui vient de gagner au loto, bien ne soyez pas jalouse, mais mettez-vous bien dans son aura, parce que bénéficiez un petit peu de ce bonheur. Parce que là encore, c'est quelque chose qui est merveilleux. Et vous savez, au sein des stages que je fais, je conseille aux personnes, on fait un petit exercice qui est très simple, c'est de leur dire, ok, vous vous mettez deux par deux, et puis à ce moment-là, vous allez vous envoyer de l'amour. Mais il y en a une qui commence à envoyer de l'amour à l'autre, et puis quand l'autre commence à bien avoir senti cet amour, elle fait l'inverse. Et souvent, quand on reçoit l'amour de quelqu'un d'autre, eh bien, on sent comme si notre corps se réchauffait. On sent souvent des petits picotements, on sent un état de bien-être, on sent vraiment quelque chose de merveilleux qui nous enrobe, qui nous caresse. Et quand on ressent ça, on n'est plus jamais les mêmes, parce que c'est évident que quand on comprend l'importance de cette pensée qu'on va pouvoir envoyer aux autres, on s'aperçoit que malheureusement, si on envoie aussi des pensées qui sont négatives, ça va faire des choses qui vont être aussi assez tristes. Alors la pensée aussi, la pensée sur le corps, elle peut venir aussi avec la prière. Alors il y a toujours deux sortes de prières. La prière qu'on reçoit des autres et la prière qu'on fait sur soi-même. Et donc il y a des groupes de prières, par exemple, moi j'avais vu ça, j'avais participé au groupe de prières de Maggie Lebrun, il y avait beaucoup de groupes de prières qui s'étaient développés en France. Et au sein de ces groupes de prières, toutes les religions étaient là, étaient présentes, il n'y avait pas de ségrégation, il y avait même des gens qui étaient athées, qui étaient là simplement pour envoyer plein de bonnes pensées. Et ces groupes de prière accompagnaient un certain nombre de patients. Donc je me rappelle avec certains groupes où il y avait jusqu'à 500, 700 personnes qui étaient là et qui allaient prier quelques minutes pour une personne. Pour une personne et qui venait successivement parmi le groupe. Et là, je peux vous dire que c'était des événements extraordinaires qui se passaient parce que ces personnes, là encore, qui étaient atteintes de maladies graves, je ne peux pas dire si ça a changé quelque chose, parce que je n'ai pas d'études là-dessus, il n'y a pas eu de résultats là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça les a complètement transformées. Elles pleuraient, elles étaient émues, comme quoi 500, 700 personnes se déplacent rien que pour prier pour elles, et elles sentaient toute cette force de cet amour qui se transmettait sur elles. C'était vraiment quelque chose de merveilleux, parce que la prière apporte aussi encore une autre dimension que la simple pensée positive, parce que ça apporte aussi une vision de la spiritualité, une vision du divin, et qui est une énergie encore plus forte et plus subtile. Donc là aussi, la prière, l'autre sorte de prière, c'est la prière sur soi. La prière sur soi, qui est un élément, prière pour soi, la prière avec Dieu, est un élément aussi très important. Parce que la prière en tant que telle, on peut utiliser des prières toutes faites, qui sont dans toutes les religions, on peut aussi inventer sa prière. Et ce qui est important, c'est que la prière, c'est comme de faire, quand on compose un numéro de téléphone, ce numéro de téléphone va bien sûr permettre la communication avec votre interlocuteur. Et bien pareil, la prière va permettre d'ouvrir le dialogue avec Dieu. Et donc quand vous avez la communication, je vous dirai quelque chose tout simple, c'est arrêter de faire la prière et puis écouter ce qu'il a à vous dire. Et là, la prière, on a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'université de Harvard en particulier, parce qu'on prenait des groupes arbitraires, c'est-à-dire au niveau de services comme les services hospitaliers en service d'urgence, en service de cardiologie. On séparait souvent les services en deux groupes, un groupe qui bénéficiait des prières, d'un groupe de prières, et un autre groupe qui n'en bénéficiait pas. Et on s'est aperçu que ceux qui bénéficiaient des prières avaient une évolution marquée, beaucoup plus bénéfique que ceux qui ne bénéficiaient pas du groupe de prière, toute pathologie confondue. Il y avait d'autres choses qui avaient été extraordinaires. C'était ces femmes qui bénéficiaient de fécondation in vitro pour des problèmes de stérilité. Eh bien, les femmes qui bénéficiaient de groupes de prière, c'était des femmes coréennes qui bénéficiaient de prières qui provenaient de groupes qui étaient situés aux États-Unis et en Australie. Eh bien, les femmes qui bénéficiaient des prières, eh bien, avaient 50% de fécondation in vitro réussie en plus que le groupe qui ne bénéficiait pas des prières. Donc c'était vraiment des choses qui sont extraordinaires, que ce soit les prières que l'on reçoit, que les prières que l'on fait. C'est des choses qui sont très puissantes et qui apportent une dimension supplémentaire à ça. Après ça, on a eu aussi beaucoup les expériences russes, mais il n'y a pas que les Russes qui ont fait ça, tous les pays du monde ont fait ça, parce que vous savez, quand... si vous voulez, s'il y a une guerre un jour, ce que je ne souhaite évidemment pas, parce que personne ne peut le souhaiter, mais s'il y a une guerre un jour, la première chose que font l'armée ennemie, c'est d'essayer de détruire les communications. Donc évidemment, les Russes s'étaient dit, on va développer la télépathie. Donc ils ont fait beaucoup d'expériences, par exemple avec un télépathe qui était placé dans un sous-marin à quelques milliers de kilomètres, et puis un émetteur qui était resté dans le GQG russe. Donc on s'est aperçu, là, il y avait plein de choses qui permettaient d'avoir de vérifier un petit peu ces éléments-là. Il y a aussi d'autres choses qui sont troublantes, comme les cellules de notre corps, quand elles sont détachées du corps, restent en contact avec le donneur. On s'est aperçu, par exemple, après une prise de sang, que les globules rouges qui étaient restés dans l'éprouvette, réagissent aux émotions de leur donneur, même si le donneur était parti à plusieurs kilomètres de là. Enfin, les phénomènes épigénétiques dont j'ai parlé dans une émission précédente, on s'est aperçu que la pensée des personnes, les chocs émotionnels, positifs ou négatifs, étaient capables d'interférer sur l'expression des gènes. Là encore, les gènes ne changent pas, mais c'est leur expression. Donc des situations, des expériences négatives sont capables d'ouvrir des gènes qui vont être délétères, alors que des expériences positives, des expériences d'amour, des expériences de bonheur, les expériences d'équilibre vont être capables d'ouvrir des gènes qui seront positifs pour la personne. Alors, j'ai souvent une petite expérience que je fais au sein des stages, et c'est simplement l'histoire du citron. Imaginez que vous preniez un citron et que vous le coupiez en deux, et donc vous portez la moitié du citron à votre bouche et vous appuyez un petit peu sur cette moitié du citron et vous laissez couler le jus dans votre bouche. Imaginez que ce jus coule dans votre bouche là, à l'instant, tout de suite, quand je vous parle. Et bien là, tout simplement, est-ce que vous n'êtes pas en train de saliver ? Eh bien là, tout simplement, ça vous montre là, vous n'avez pas de citron, ça veut dire que votre pensée, la pensée du citron, a déjà provoqué une action dans votre corps. Vous voyez comment votre pensée est très puissante et peut agir sur votre corps. Donc là aussi, on verra dans d'autres émissions comment la pensée aussi peut agir sur le monde qui nous entoure, elle peut agir sur la matière. Donc, parce que la pensée va pouvoir informer, c'est-à-dire donner la forme à la matière. Et donc là encore, un petit peu comme nous l'enseigne Ho'oponopono, dont nous avons déjà parlé, cette pensée, quand elle est positive, va être capable de créer des situations harmonieuses, alors que si elle est négative, ça va nous entraîner vers des situations désagréables. Donc là, ce que j'insiste surtout, c'est pour vous dire que votre pensée est très importante. Très importante parce que rappelez-vous déjà que vous êtes aujourd'hui ce que vous avez pensé de vous hier. Très bien. Donc là, maintenant, vous le savez, pensez simplement, vérifiez vos pensées, sélectionnez vos pensées, parce que là encore, vous êtes en train de préparer de ce qui va se passer demain et après-demain. Donc faites bien attention à vos pensées. N'ayez toujours que des pensées positives par rapport à vous, positives par rapport à ce que vous êtes en train de faire, positives par rapport aux médicaments que vous prenez, quels qu'ils soient. Parce que tout ça va renforcer leur action. Tout ça va vous apporter une santé. Et là, on avait même des techniques qui nous montraient que la visualisation, simplement une visualisation, quand on imaginait par exemple, que les sportifs imaginaient mettre des ballons dans le panier de basket, s'ils imaginaient ça plusieurs fois, à ce moment-là, au bout du compte, ils s'apercevaient que le match suivant, ils avaient des résultats beaucoup meilleurs que ceux qui n'avaient simplement fait que des entraînements habituels. Parce que quand on visualise, on est gagnant-gagnant, on est très positif. Et donc là, la visualisation est très très forte. Et donc là aussi, cette visualisation, ça fera partie d'autre chose. C'est nos neurones miroirs, c'est-à-dire c'est que quand on fait quelque chose, quand on voit faire quelque chose, quand on imagine faire quelque chose, on est en train d'utiliser les mêmes neurones. Et donc là, c'est quand on voit quelque chose se faire, c'est comme si on le faisait nous-mêmes. Voilà, donc c'est un grand, grand plaisir de vous rappeler cette force de la pensée. Et donc faites attention à vos pensées et dirigez-les dans le positif. Et n'oubliez pas aussi que de me retrouver, si vous le voulez bien, sur mon site internet qui s'appelle luc-baudin.com. Et venez sur mon site où vous trouverez plein d'informations. À bientôt.
L'émission Électron Libre vous est présentée tous les mercredis dès 10h et en rediffusion à 20h.